Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Comment construire notre avenir en société? Comment créer une envie de futur? Vaste question au sujet de laquelle les politiques et les citoyens eux-mêmes sont confrontés sans trouver de solution. Faut-il acter d'une rupture générationnelle en constatant avec Tocqueville que dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau? Ou bien, au contraire, tabler sur la transmission intergénérationnelle avec Victor Hugo, expliquant que la France sera sauvée quand les vieux regarderont en avant et les jeunes en arrière? L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, c'est pour ça que le présent nous échappe, nous rappelle Flaubert. En conséquence, le plus raisonnable n'est-il pas de dépasser la notion de rupture générationnelle et de tenter d'imaginer un futur commun pour toutes les générations, dès maintenant, en considérant comme Albert Camus que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Mais alors, que faire et comment le faire? Il existe une solution géologico-sociétale, c'est le passage de l'anthropocène au citoyocène, où apparaissent un consommateur frugal, moins boulimique de consumérisme, et un citoyen gourmand d'engagement civique. Tel est le propos de l'ouvrage de Pierre Tabarin intitulé « Le citoyocène, un nouveau futur » paru aux éditions Nombre 7. Bonjour Pierre Tabarin.
Bonjour.
Merci d'être des nôtres pour cette émission. Bonjour aux auditeurs. Alors, Pierre Tabarin, la première question que j'ai envie de vous poser, vous avez écrit ce livre, mais vous n'êtes pas géologue.
Non, du tout, ni anthropologue. Si je devais me définir, je dirais naturellement, je suis un citoyen engagé qui essaye, selon la formule consacrée, d'avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté.
Alors, c'est effectivement un engagement du citoyen, mais j'irai peut-être un peu plus loin en disant c'est quasiment un slogan politique, voire un programme politique. Alors, je me demandais pourquoi vous ne vous êtes pas présenté aux dernières présidentielles.
J'ai toujours eu dans ma vie le souci de l'engagement et pour avancer, d'avoir deux jambes solides. L'une professionnelle, économique, puisque j'ai fait une carrière de cadre dirigeant dans la banque, et l'autre citoyenne. Dans la mesure où, d'une part, j'ai toujours eu des engagements associatifs significatifs. J'ai été, il y a 40 ans, président national de la Jeune Chambre économique française. Et aujourd'hui, au niveau de l'Occitanie, je suis le responsable régional pour une organisation qui œuvre dans le transfert générationnel de compétences, d'expériences. Et puis, j'ai aussi été, même si je n'ai pas été candidat à la dernière présidentielle, élu local. Je sors de 12 années d'élu local, d'élu municipal, d'élu communautaire au niveau d'Auch, ce qui témoigne bien tous ces engagements de ce souci permanent d'allier les deux réalités du monde, c'est-à-dire l'économie d'un côté qu'on ne peut pas oublier, et puis d'un autre côté la vie en société qui n'est pas faite que d'économie.
Alors vous avez déjà une riche bibliographie. Alors je vais en citer quelques ouvrages. Lettres complices, qui est paru donc cette année. Trois Gascons pour chérir la liberté, qui est paru en 2021. Et Le citoyocène, qui est, je crois, paru la même année, en 2021. Voilà. Alors, dans tous ces livres, il y a quand même un thème commun. Des valeurs que vous abordez qui sont récurrentes.
Oui, c'est très vrai, ce qui donne, lorsqu'on écrit, une impression un petit peu curieuse, dans la mesure où on a le sentiment de toujours un petit peu revenir à des thèmes qui sont pour celui qui écrit importants, qui sont de valeur qui le constituent. Et même si chaque livre est différent, vous pourriez aussi citer celui que j'ai écrit en 2020 qui s'appelle « À la recherche du Triub », qui est l'histoire d'une famille franco-américaine qui vit à Toulouse et qui réfléchit au travers de différentes aventures, parfois un peu humoristiques, sur l'altérité, sur le dialogue, sur l'échange, sur, encore une fois, la place de chacun dans la société et les relations entre les uns les autres dans la société. Donc je crois que votre remarque est tout à fait justifiée. Par un biais ou par un autre, j'essaye toujours de mettre en avant ces valeurs qui pour moi sont importantes, qui sont nées de 1789, la fameuse révolution des Lumières avec un grand L, qui doit toujours, me semble-t-il, continuer à nous éclairer. Et c'est justement quand on est dans des périodes excessivement complexes, conflictuelles, difficiles, où après peut-être une période d'un certain calme de quelques décennies reviennent beaucoup de tempêtes, eh bien il faut essayer de trouver quel est le phare qui peut vous guider, comme un phare au bord de la côte guide le marin pour éviter les récifs.
Voilà. Alors ce sont effectivement, dans les thèmes récurrents, ce que vous venez d'expliciter, équilibre social, philosophie de l'altérité, l'humain au sein de l'économie. Et effectivement, vous avez écrit un ouvrage au sujet de l'entreprise, autour de l'entreprise, parce que vous avez une conception, pas particulière, mais bien spécifique, de l'entreprise, de son rôle et de la manière dont elle devrait fonctionner.
Oui, le livre que j'ai écrit en 2020, parce que en 2020 et 2021, comme beaucoup de personnes, j'ai eu du temps libre, je suis resté beaucoup à la maison, donc j'en ai écrit deux en 2020, deux en 2021 et seulement un seul en 2022, là, les lettres complices dont vous parliez à l'instant. Effectivement, je crois que l'entreprise est au cœur de la vie sociale. Elle est au cœur de notre modèle socio-économique avec notre système de cotisation. Elle est au cœur de la vie sociale parce que tout le monde considère que le fait d'avoir un emploi est une façon d'être socialisé, ce qui est très important aujourd'hui. Et j'ai donc imaginé le renouveau de l'entreprise, qui est un petit livre qui met en avant un chef d'entreprise qui se retrouve à la tête d'une entreprise qui a déjà un bon siècle et demi. Il est la quatrième génération et il se dit « qu'est-ce que je dois faire ?» Qu'est-ce que je dois faire quand je vois que les consommateurs évoluent, que les salariés évoluent, ont d'autres attentes, qu'il y a un environnement qu'on ne peut pas ignorer. Donc, ils s'interrogent. Et ils s'interrogent non pas seulement sur des questions purement matérielles, techniques ou financières. Non, que va-t-il faire? Il va au Clos Lucé relire ce que ou quelles peuvent être les pensées de ce qu'il a pu écrire ou dessiner de Léonard de Vinci. Avec toujours l'idée derrière que il faut toujours avoir en tête les idées, les valeurs, la philosophie pour avoir du sens. Et Dieu sait si aujourd'hui c'est redevenu un mot d'actualité, donner du sens à son entreprise. Donc c'est sa démarche, il rencontre un certain nombre de personnes, il dialogue avec tout son corps social et puis il fait comme ça évoluer son entreprise.
Alors nous allons revenir sur le sujet de l'entreprise un petit peu plus tard. Alors ce que l'on remarque dans tous vos ouvrages, c'est que finalement vous parlez, je dirais, de sujets sérieux, de sujets de société, de philosophie, d'organisation de la société, mais c'est toujours sous une forme de récit, c'est-à-dire que vous ne nous présentez pas des essais magistraux, mais un récit d'actualité. Alors d'où vous est venue cette idée de forme d'ouvrage ?
Très honnêtement, parce que je ne sais pas écrire de roman. Je ne sais pas comment faire. Je me suis posé la question avec multiples personnages, des rebondissements, etc. Donc, je ne sais pas faire. Et d'un autre côté, des essais purement essais, avec uniquement des composantes théoriques ou techniques, donc je veux dire des choses très très sérieuses. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus complètement compétent que moi sur tel ou tel sujet pour faire ce type d'ouvrage. Donc j'ai trouvé quelque chose d'intermédiaire, qui est un essai, mais plutôt un récit d'actualité, où, comme en ce qui concerne mon dernier ouvrage, Les Lettres Complices, l'éditeur l'a appelé un essai fictionnel. Donc c'est un essai, mais qui s'appuie sur des choses, on pourra éventuellement en parler après, qui sont tout à fait de la fiction. Donc c'est un petit peu, si je peux dire, ma spécialité, puisque par exemple dans le Citoyocène, comme dans les autres ouvrages, j'ai toujours des personnages. J'ai besoin d'avoir des personnes qui sont en situation, qui s'expriment, qui partagent, un sujet. Bon, le chef d'entreprise, là, qui rencontre un tas de personnes, il a un problème à régler. Donc, c'est pas un essai, c'est une réflexion sur l'entreprise, mais au travers de multiples dialogues, à la recherche du Triube, qui est le livre sur l'altérité, sur le bruit. C'est l'histoire d'une famille franco-américaine de Toulouse. Il y a les deux parents et deux enfants. Il arrive plein d'aventures. Mais là encore, j'ai besoin de personnes qui portent. Il porte une idée, une réflexion, un échange. C'est peut-être, quelque part, inconsciemment, mon attachement à l'importance de la personne humaine.
Voilà. Et ce qui rend facile le fait d'aborder les notions de civisme, d'illustration que l'homme est vraiment un animal social et qu'il ne faut jamais l'oublier, que la vie collective demande un effort permanent à chacun et qu'il est nécessaire de ne cesser de lancer des appels à la responsabilité individuelle.
Oui, je suis convaincu par vos derniers propos. Je crois effectivement que la vie en société repose sur une valeur qui pour moi est importante, qui date elle aussi bien sûr des Lumières, c'est la notion de liberté, mais sous l'angle philosophique, c'est-à-dire non pas sous l'angle économique et encore moins sous l'angle du néolibéralisme qui nous anime depuis quelques décennies et puis qui a été une conception un petit peu dévoyée d'un libéralisme non seulement purement économique mais éventuellement purement financier, quoi, avec peut-être quelques éléments positifs ici ou là, mais pas mal de dégâts. Donc ce qui me motive, c'est la notion de liberté, d'où ce livre aussi sur Trois Gascons pour chérir la liberté, où là je ne me suis pas du tout exprimé, mais j'ai mis en avant les idées de Trois Gascons, un philosophe Montaigne, un juriste Montesquieu et un économiste landais, Frédéric Bastiat, qui tous les trois ont parlé de cette notion de liberté sous des angles divers. Mais il est intéressant de voir, de réfléchir pour savoir si ce qu'ils ont écrit à des époques diverses reste toujours d'actualité. Et je pense que cette notion de liberté, mais pas d'une liberté, chacun dans son coin ou chacun en ignorant l'autre. Vous disiez tout à l'heure, l'homme est un animal social. Je crois beaucoup à cette notion de liberté équilibrée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le personnalisme communautaire. La personne humaine est la plus des richesses, donc il faut rester très attaché à cette notion relativement récente finalement de droit de l'homme, mais l'homme il vit en société, il faut en groupe, donc tout le défi c'est au fil du temps et en tenant compte des évolutions sociologiques, psychologiques, technologiques, comment trouver le bon équilibre.
Alors tout ce récit est un récit qui est tourné autour d'une grande proposition, c'est-à-dire quelque part comment allons-nous construire un avenir enviable ? Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, je le redis encore une fois pour nos auditeurs, c'est que quand j'ai lu votre livre, je me suis demandé s'il s'agissait effectivement d'un récit d'actualité, d'un programme politique, d'une profession de foi, d'un essai sur les relations intergénérationnelles, voire d'un manuel de civisme. Alors, un petit clin d'œil, un traité de géologie sociale, peut-être, une utopie, et on reviendra sur cet aspect-là, une envie de futur ou un message d'espoir, et peut-être finalement tout à la fois.
Oui, c'est tout à la fois. Il y a un petit peu de tout ça. Il y a une idée, si vous voulez, qui est qu'aujourd'hui, nous sommes dans la période qu'on appelle l'anthropocène. hein, qui a été décrite, donc évolution de la planète sous l'effet d'un impact humain comme ça n'avait jamais existé. C'est pas la première fois qu'elle existe, hein, il y a eu beaucoup d'aires géologiques, mais celle-là est particulièrement liée à l'activité humaine. Donc mon idée, c'était comment est-ce qu'on peut en sortir ? D'où ce mot que j'ai inventé, citoyocène. On peut en sortir par un effort de chacun sur soi et par un effort collectif. C'est-à-dire que le fil conducteur, c'est de dire on ne va pas en sortir par la collapsologie, tout s'effondre, tout disparaît, on ne revient même plus au monde au pastoral, la terre explose, si je peux dire. Et ça évite aussi l'autre solution qui est je ne sais quel autoritarisme, élitisme venu d'en haut par ceux qui savent et puis qui contraignent tous les autres. Donc c'est une voie moyenne. Peut-être quelque chose à vous dire aussi qui quelque part conditionne mon propos. Je suis normand et né sous le signe de la balance. Donc ça conduit peut-être inévitablement à une certaine notion d'équilibre dans les solutions à mettre en place.
Merci. Nous allons faire notre première pause musicale qui va sans doute ravir les boomers.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence. Echo the wills of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de Pierre Tabarin pour son dernier livre, Le Citoyocène, un nouveau futur, paru chez Nombre 7 Éditions. Pierre Tabarin, une musique qui nous rajeunit finalement.
Oui, mais je crois qu'elle traverse très bien les époques. Et derrière les paroles, il y a dans cette musique peut-être aussi la certaine douceur, une certaine douceur d'une époque où on a rêvé peut-être Woodstock et compagnie, mai 68. Tout ça illustrait aussi une époque qui a généré beaucoup d'évolutions. Si on la regarde avec un petit peu de recul, c'était une époque aussi, par certains côtés, qui a été relativement violente. Ça a été une époque qui a fait avancer beaucoup d'idées. C'est une époque qui n'était pas si simple. Hein. On était encore pendant la période de la guerre froide. Et par certains côtés, eh bien, la période actuelle couvre un certain nombre d'éléments aussi de cette époque-là. Et on est sorti des années 70 avec des bonnes choses et de moins bonnes. Donc la période actuelle et les périodes à venir, c'est aussi l'un des enseignements peut-être de ce livre, c'est que, clin d'œil peut-être aux millennials, ce qu'ils feront demain quand ils seront en responsabilité, il y aura beaucoup de choses très bonnes. Et puis 30 ans après, ils s'apercevront peut-être qu'individuellement ou collectivement, telle ou telle initiative, il eût peut-être mieux valu l'éviter.
Alors, l'avantage de votre ouvrage et de la forme qu'il présente, c'est effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un roman. Et vous savez qu'on a toujours des difficultés à présenter un roman sans dévoiler et d'aller jusqu'à l'épilogue. Et alors, je pense que dans le cas de votre ouvrage, on peut aborder la trame. Alors, la trame, vous mettez en scène des personnages, Françoise, Jean, Julie et Kevin, qui sont des boomers et des millennials. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner une définition des boomers et une définition des millennials, surtout pour nos auditeurs ?
Les définitions qui existent, qui sont assez approximatives, mais enfin en gros, les boomers, c'est ceux qui sont nés après-guerre, pas nécessairement en 46 ou 47, mais dans la dizaine d'années qui suit, ou quinzaine d'années hors de grandeur, enfin génération d'après-guerre, donc qui n'a pas connu la guerre, les parents l'ont connu. Et les millennials, c'est ceux qui ont eu une vingtaine d'années autour de l'an 2000, quoi. Donc ça dépend un petit peu des définitions, mais grosso modo, donc les boomers aujourd'hui ont 60, 70 ans et plus, et puis les millennials tournent autour peut-être de la trentaine aujourd'hui, quoi. Donc en gros, c'est ça, mais ce sont des classifications un peu sociologiques, voire pourquoi pas éventuellement marketing.
Voilà, et au-delà de la génération, alors les millennials sont aussi appelés la génération Y, et puis il y a toute cette déclinaison de génération Z, de génération Alpha, etc. Alors, qui sont Jean, Françoise, Julie et Kevin ? Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans cet ouvrage, dans cette histoire ?
Un petit complément avant de vous répondre à votre question précédente, parce que les millénials, vous l'évoquez, sont appelés aussi génération Y. Et Julie, à un moment, je crois, l'évoque, c'est aussi à la mode, enfin en anglais, la génération Y.
Why. Hein,
c'est-à-dire la génération pourquoi. Hein, c'est une génération qui pose beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi à la génération précédente. Alors, il y a effectivement quatre personnages qui sont réunis parce qu'il fallait trouver un prétexte par des médias nationaux et un média régional, La Dépêche, et qui fait un concours, sélectionne deux millénials et deux boomers pour les mettre ensemble pendant deux semaines, une semaine à Deauville et une semaine à Marseille. C'est intéressant d'ailleurs, parce que, et je le dis un moment dans le livre, très honnêtement, j'ai choisi ces deux villes-là un petit peu par hasard, parce que je les connais, et je me suis aperçu que Deauville, c'est sur la Manche, la mer, hein, qui est la plus fréquentée en termes de commerce de bateaux, Et Marseille, c'est la ville par excellence de notre berceau gréco-latin, quoi. Hein. Donc, inconsciemment, je les ai fait aller dans deux villes qui ont finalement beaucoup de sens, en essayant de rapprocher ce que peut être le commerce moderne de notre philosophie gréco-latine. Donc, Jean est un chef d'entreprise très rationnel, qui a plusieurs centaines de salariés à faire vivre. Françoise est une cadre importante d'entreprise qui prend sa retraite. Julie, qui est née dans le Gers d'ailleurs, est une passionnariat des idées modernes, très, très éco-féministe, très pushing. Et puis Kevin est un autre modèle, lui, très détendu. Très cool, qui est à la fois un métier de haut niveau dans la finance et puis qui en même temps a passé un CAP de pâtissier et un CAP de bourrelier, quoi, qui montre que c'est quelqu'un finalement de très équilibré et de très calme. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ces quatre-là qui ne se connaissaient pas, qui n'ont pas, et on le voit tout au long du livre, les mêmes avis, eh bien, à la fin du livre, se disent « c'était bien quand même de parler ensemble ».
Alors, non seulement ils trouvent que c'était bien, mais ils montrent et ils démontrent qu'ils ont pu arriver à s'entendre sur des perspectives d'avenir, finalement. Alors, auparavant, ils sont amenés à dresser un constat et une liste de problématiques dures qu'il faut résoudre. Et ils vont donc aborder ces thèmes les uns après les autres. Alors, le premier thème qu'ils abordent, c'est les fractures générationnelles, numériques et écologiques. Alors, quel est leur constat sur ces fractures ?
Julie, naturellement, trouve que la situation est catastrophique, que tout est perdu. Hein ? On a les boomers, lui laissent la pauvre, une situation catastrophique, ils ont tout gâché. Kevin est beaucoup plus modéré en pensant qu'effectivement, il ne nie pas les problèmes, mais il a confiance en l'avenir, notamment la technologie, pour régler un certain nombre de problèmes. Il est plus confiant dans le civisme que Julie. Et puis, Jean et Françoise essayent d'évoquer au travers de leur expérience que, d'une part, de façon générale, des problèmes, des difficultés, il y en a toujours eu. Qu'être responsable, que d'être un être humain qui vit en société, et ben c'est justement se donner les moyens, surtout dans des périodes actuelles où on est, par rapport à bien des problèmes, globalement beaucoup plus informé et formé qu'il y a quelques décennies ou quelques siècles, bien évidemment. Et ils amènent, eux, un discours de façon, comment dirais-je, plus rationnelle et un petit peu plus pondéré. Ça ne veut pas dire qu'il nie l'existant, mais que sur le fond, il considère qu'il y a des solutions et que ces solutions, elles peuvent être construites, sans doute en faisant un certain nombre d'efforts individuels et collectifs. C'est la liste de leurs recommandations qui sont des solutions concrètes, opérationnelles, pour essayer de faire avancer les choses en évitant aussi bien la révolution que la dictature.
Alors, la seconde grande problématique, c'est l'environnement. C'est répondre en quelque sorte à la question comment arrêter l'incendie et comment définir la place de l'homme dans la nature. Alors là, ils ont des avis au départ qui divergent, mais ils vont aussi sur ce thème-là réussir à trouver un terrain d'entente.
Oui, l'environnement est très important, mais d'une part, c'est pas le seul sujet. Hein. C'est un sujet qui est devenu important, hein, qui a mis du temps à devenir qu'il est devenu, mais ce n'est pas le seul. Et c'est ce qui les amène finalement. L'ensemble de ces réflexions sur ces divers thèmes-là, y compris les autres, la politique, la démocratie, etc., a formulé non pas un guide exhaustif de recommandations, ni à mettre en avant telle ou telle nouvelle valeur. Françoise disant d'ailleurs que liberté, égalité, fraternité, c'est déjà pas mal. Donc, conjuguons-les bien plutôt que d'en rajouter d'autres. Et ce qui les unit, c'est finalement cette notion d'un plan de cohésion citoyenne. hein, c'est-à-dire travaillons ensemble à être unis, à être cohérents, ce qui est deux choses différentes, et puis donnons-nous des outils, parce que je crois qu'ici ou là, tel ou tel parle de cette notion de désinstitutionnalisation, hein, c'est-à-dire qu'on ne croit plus ni dans les élus, ni dans les institutions. Et quand on ne croit plus aux institutions, eh bien, soit on fait table rase de l'existant, soit on attend l'homme providentiel, l'homme miracle qui va tout régler. Et le plan de cohésion citoyenne montre bien, met bien en avant trois notions. Le plan, c'est-à-dire une notion de moyen terme, ça se construit dans le temps, et la réponse aux problèmes environnementaux, on peut penser effectivement qu'on a peut-être réagi trop tard, qu'il y aurait peut-être des choses qu'il fallait faire avant, c'est toujours facile à dire après, donc les choses vont se régler petit à petit dans le temps, avec la notion de cohésion, comment être plus cohérent, il y a différentes mesures qu'ils évoquent, et puis avec cette notion bien sûr de citoyenneté. Parce qu'il existe, et parfois Julie semble un petit peu le penser, certains qui voient, comment dirais-je, le fait eh bien, de retourner chacun dans son coin à une vie pastorale en s'occupant de rien et en étant tranquille. Parfois elle évoque un peu ce sujet-là, ce que bien évidemment lui les conseille, les deux boomers avec qui elle discute.
Et la réflexion qui était très importante au sujet de l'environnement, c'est effectivement de dire que ce qui est important sur ce sujet-là, c'est la place de l'homme dans la nature. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous citez Hubert Reeves qui dit « Notre problème aujourd'hui, c'est de vivre avec notre puissance et de ne pas disparaître ».
Oui, cette place de l'homme, elle est intéressante. Parce que elle revient au cœur du débat sur l'environnement, sur la notion d'écologie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que écologie, ça vient du grec écos, hein, comme économie, oikos en grec, c'est-à-dire la maison. Donc l'écologie, fondamentalement, ça doit être d'abord la place de l'homme dans la société, la place de l'homme face à la nature, et pas je privilégie la nature et j'en oublie l'homme. Ce qui est un vrai débat entre les intéressés. Donc effectivement, ce débat sur l'homme dans la nature est évoqué dans le livre. Est-ce que c'est une créature comme les autres? Est-ce que c'est une créature qui est... différente des autres. Est-ce que c'est une créature passagère? C'est un petit peu évoqué dans le livre par rapport aux préoccupations qu'on peut avoir en matière de transhumanisme ou post-humanisme. Vous savez, transhumanisme, l'homme, on lui met des puces partout, puis il va aller mieux physiquement, intellectuellement, il va vivre plus longtemps. Et le post-humanisme, c'est, comment dirais-je, un amas de chair piloté par de l'intelligence artificielle, quoi. Hein? Bon, donc ça, ce sont des questions, comment dirais-je, autour de l'homme, la place de l'homme. De même qu'est une question, la place de l'homme face demain au droit nouveau, aux droits juridiques, aux personnalités juridiques qu'on peut éventuellement accorder aux animaux, mais aussi aux robots, la question se pose. Donc cette question de la place de l'homme aujourd'hui, elle est essentielle, parce que ce qui est intéressant à noter, elle est au cœur bien sûr de la problématique environnementale, mais à l'occasion de cette problématique environnementale, elle se repose de façon beaucoup plus large.
Nous allons faire une seconde pause. Partant du fait que nous venons de parler d'environnement, de la place de l'homme dans la nature, et je vous propose une chanson de Pierre Bachelet, Le Chêne, qui met bien en exergue le caractère fragile de la nature.
Planté sur l'ordre de Colbert, dans une forêt des Charentes, mes hautes branches voient la mer, mais c'est la terre qui me hante. Et ceux qui sont venus hier étaient des gens patibulaires,
c'était d'étranges arpenteurs. Je suis un chêne qui a peur. Laissez-moi vivre encore un peu. Laissez-moi vivre un siècle ou deux. La route peut bien faire le tour du petit bois de Saint-Amour. J'ai encore beaucoup d'ombre à faire pour les amoureux du dimanche, pour que la mousse soit légère quand ils se tiennent par les hanches. Mais entend-il seulement ma voix, ce petit ingénieur pédant qui me condamne d'une croix pour une affaire d'alignement? Laissez-moi vivre encore un peu. Laissez-moi vivre un siècle ou deux. La route peut bien faire le tour du petit bois de Saint-Amour. Et moi qui suis comme un roi vert, régnant sur l'ombre généreuse, je vais tomber le front à terre, vaincu par une tronçonneuse. Laissez-moi vivre encore un peu. Laissez-moi vivre un siècle ou deux. La route peut faire un détour. Laissez-moi vivre encore un peu. Laissez-moi vivre un siècle ou deux. La route peut bien faire le tour du petit bois de Saint-Amour.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Tabarin pour son ouvrage Le Citoyocène, un nouveau futur, paru chez Nombre 7 éditions. Alors Pierre Tabarin, nous avons examiner les problématiques de fracture générationnelle, d'environnement et de place de l'homme dans sa nature. Alors, tous les, j'allais dire, les héros de votre ouvrage vont balayer un certain nombre d'autres thèmes, notamment le thème des inégalités. Et à ce sujet-là, quel est le constat partagé sur les inégalités ?
Avant de répondre à votre question, comme clin d'œil, je voudrais rebondir sur la belle chanson qu'on a entendue. Et pendant qu'on l'écoutait, je me suis amusé à qualifier les différents personnages. Effectivement, le chêne ressemble beaucoup à Jean, quoi. Hein. Françoise, qui est beaucoup plus philosophe, ce serait le hêtre, avec ou sans H d'ailleurs. Kevin, un roseau pensant. Hein? Et puis Julie, incontestablement, le cactus, quoi. Hein? Donc, merci de m'avoir fait cette réflexion grâce à votre chanson. Alors, en ce qui concerne les inégalités, ce livre a été écrit en 2021. Et c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui a pris là ces derniers temps une vraie dimension, hein, sociale et politique. Et le constat peut-être auquel ils adhèrent tous, c'est que les inégalités existent. Quelle est la principale préoccupation? Est-ce de réduire les inégalités? Comment? Par la force ou autrement. Et puis, il y a une autre notion qui doit être prise en compte, indépendamment de la notion d'inégalité, c'est la notion de pauvreté. Donc, il y a, je crois, un accord de tous sur le fait qu'il faut trouver des solutions à la pauvreté. Ensuite, les inégalités suivant les pays, suivant les politiques suivies, ce sont des résultats très très différents. Et la France, d'ailleurs, je crois que c'était évoqué par tel ou tel, les travaux de Thomas Piketty ou l'indice de Gini ou d'autres références montrent que, en gros, depuis beaucoup d'années, le rapport entre les 10% plus aisés et les 10% les moins aisés est à peu près stable. Ceci dit, bien évidemment, quand on parle des 1%, des 0,1 ou des 0,01% plus aisés, il y a des écarts phénoménaux. Sont-ils inacceptables? Comment se sont-ils construits? Tout ça mérite réflexion. De ce débat sur les inégalités, au-delà des discours un petit peu de circonstances des uns des autres, j'ai eu l'impression que finalement, c'était peut-être sur celui-là qu'il y avait le moins de conflits. Il y en a moins que sur les questions plus politiques, que sur l'environnement, que sur la responsabilité des uns des autres, les boomers qui auraient tout cassé, et puis les millénials qu'on appelle parfois comme d'autres les snowflakes, c'est-à-dire les flocons de neige qui ont des états d'âme chaque fois il y a le moindre problème. Donc je crois que sur ce sujet-là, il y a le sentiment, s'ils arrivent à ce plan de cohésion citoyenne, c'est qu'il y a une volonté commune de trouver des solutions et des solutions qui passent par un effort des uns et des autres, notamment sur le plan financier. Hein. Et on voit bien que dans les propositions qui sont faites, les boomers ne sont pas opposés à faire un effort. On voit notamment une proposition qui est retenue par le groupe qui est d'augmenter un petit peu la CSG, ce qui n'est pas partagé par tout le monde, mais les boomers comprennent bien que la CSG, elle s'appuie sur tous les revenus, en particulier sur le patrimoine, qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'essentiel du patrimoine est détenu par les boomers, ce qui en soi n'est pas illogique, hein, d'autant plus qu'un jour, les millennials en bénéficieront, mais la situation fait que ils peuvent peut-être, à ce titre-là, faire un effort pour contribuer au bon équilibre du système socio-économique.
Alors, une autre dimension qui est abordée, on va prendre le temps uniquement de l'énumérer, on y reviendra si on a le temps tout à l'heure. C'est la notion du rapport au temps par rapport au fait de vouloir dessiner un avenir. Mais je voudrais qu'on garde justement notre temps pour le plan lui-même, hein, de manière très pratique. Parce qu'on pourrait aborder le problème de l'entreprise, mais vous en avez déjà parlé. Tout ce qui a trait à l'État et à la démocratie, on reviendra sur des mesures que vous proposez en termes de changement d'assiette de fiscalité, de suppression d'impôts sur les sociétés, de volonté de se désintoxiquer du travail, comme vous dites, et du fait que de recentrer le rôle de l'État sur la famille et sur l'école. Tout ce qui est politique et tout ce qui est l'utilisation et l'adaptation à l'évolution technologique aussi font partie des débats. Alors, je vous propose maintenant, à l'issue donc de ces deux semaines d'études, les personnages proposent le plan de cohésion citoyenne qui est fondée donc sur trois piliers, l'activité au cœur du contrat social, un slogan que j'ai bien aimé, un consommateur frugal et un citoyen gourmand, et tout ça pour aboutir au citoyocène comme nouveau futur. Alors, pourquoi l'activité au cœur du contrat social? Pourquoi c'est essentiel?
Un petit mot, si vous permettez, avant, sur la notion de temps que vous avez évoquée, parce qu'elle est... Elle est très importante, quoi. Les boomers ont le sentiment que le temps est passé trop vite, ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils auraient aimé. Julie trouve que rien ne va assez vite. Et il y a un échange qui est assez savoureux lorsque Jean dit « Mais tu sais, Julie, plus on vieillit, plus on est sensible à l'importance du temps ». Et elle lui répond, écoute, Jean, on comprend bien que tu te préoccupes du temps qui te sépare de l'EHPAD, mais c'est pas mon échelle de temps à moi, quoi. Hein? Donc, on voit bien que ce sujet-là, comment dirais-je, il est assez chaud entre les différentes générations. Alors, effectivement, le plan de cohésion citoyenne, il repose sur plusieurs piliers, notamment la notion d'activité, quoi. Parce que, je l'évoquais tout à l'heure à propos de l'entreprise, l'activité socialise le travail, mais pas seulement que le travail. La formation socialise l'engagement civique, socialise le fait de participer activement au débat public ou à la vie électorale, débat public local ou régional, national, peu importe. Je veux dire, socialise donc le fait d'être actif, de ne pas rester dans son coin, ne pas se moquer de tout, ne pas vouloir plutôt être complètement désimpliqué. Tout ça, c'est balayé par l'importance, le rôle de l'activité. Hein? Donc il faut absolument que tout le monde reste en activité et il faut faciliter l'activité, les projets et l'engagement. Ce qui repose, mais ce que les boomers ont appris, les millénials sans doute moins et ceux qui viennent après encore moins, c'était l'instruction civique, qui était le fait qu'il fallait s'engager, participer à la vie civique. C'est pour ça qu'on vous instruisait civiquement. Donc, on retrouve ces choses-là, bien sûr, dans les propositions qui sont faites, à savoir l'importance de la formation. Donc, il faut faire un courage, il faut faire un effort, il faut avoir du courage pour se former à l'école, au lycée et puis toute la vie. Et puis, d'un autre côté, il faut avoir aussi le courage de s'engager et de dire ce qu'on pense, d'où une critique quelque part qui est faite aux réseaux sociaux sous l'anonymat, hein, où chacun dit n'importe quoi sous forme d'un pseudo. Or, il est mis en avant qu'il vaut mieux dire ce qu'on pense de façon très claire en disant qui on est.
Voilà. Et au-delà de ça, vous insistez sur une notion intéressante aussi, qui est de dire qu'il faut arrêter de se comporter en créancier de la société. C'est quelque chose qui a à voir de manière très étroite au civisme, et c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément dans l'air du temps en ce moment.
Oui, vous avez tout à fait raison. Les droits et les devoirs. Dans la constitution de la Seconde République, qui a vécu très peu de temps malheureusement, il y avait la notion de droit et de devoir. Et on ne l'a pas retrouvée dans les constitutions suivantes. Et d'un autre côté, dans la constitution actuelle, dans les textes qui en font partie, il y a la notion maintenant liée à l'écologie de principe de précaution. Et dans les articles concernant ce thème-là, on retrouve ici, c'est le seul endroit, la notion de droit et de devoir. C'est-à-dire le citoyen, il a un certain nombre de devoirs, de droits, mais il a aussi un certain nombre de devoirs. Parce que chaque fois que vous dites « j'ai un droit à », qui vous fournit la réponse? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est moi qui dois la trouver, la réponse? Est-ce que c'est l'État qui doit me la fournir? Est-ce que c'est je ne sais quelle institution, organisation ou entreprise? C'est toujours une question qu'il faut se poser, parce que elle induit nécessairement un mode d'organisation sociale et puis un mode de financement des droits A.
Alors, ce nouveau contrat, on l'a bien compris, est basé sur le civisme qui lui-même est présenté comme un nouvel idéal. C'est basé également sur un engagement de transmission générationnelle. Et quelque part, vous précisez que l'avenir, c'est sans doute la démocratie libérale et l'économie de marché qui permettra d'atteindre un nouvel équilibre. Ce n'est certainement pas le grand soir, ce n'est pas de rester dans l'anthropocène, c'est-à-dire dans un combat contre la nature, mais de se glisser dans le citoyocène, dans une sorte de phase où on va privilégier l'accommodement avec la nature et où l'homme va diminuer son agression. Alors, globalement, ça serait difficile d'être contre toutes ces propositions. Mais on se demande, par exemple, comment trouver un nouvel équilibre dans le cas de la démocratie libérale et de l'économie de marché, parce que c'est une grande question. Et on a un peu envie de vous demander, est-ce bien réaliste ou qu'est-ce que vous pourriez proposer de plus que les autres ?
Si vous voulez, il s'agit d'abord de deux principes. Quel est le problème de l'économie ? Le problème de l'économie, c'est de définir un prix. C'est-à-dire de fabriquer des produits ou des services et de définir un prix. Pour définir un prix, vous n'avez que deux façons. Soit il est imposé d'en haut, par je ne sais quelle autorité, soit c'est l'offre et la demande. Vous n'avez pas le choix. On n'a jamais trouvé d'autre solution. Donc la solution la moins mauvaise, c'est l'économie de marché. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas d'erreur, bien évidemment, mais quand on est au niveau du principe, c'est ce qui paraît le plus efficace. La démocratie libérale, parce que là encore, Churchill l'a dit, c'est cité dans le livre, la phrase bien connue, c'est le moins mauvais de tous les systèmes, ou c'est le pire, mais on n'a pas trouvé d'autre. Voilà. Donc, il est évoqué aussi dans le livre la fameuse ochlocratie, c'est-à-dire le gouvernement par la foule. C'est peut-être pas idéal non plus. Donc, la démocratie qui est évoquée ici est libérale, même peut-être un petit peu plus précisément dans les propositions du groupe, c'est-à-dire une démocratie de représentation réaffirmée, de délégation. Ça n'empêche pas qu'il y ait participation ici ou là, mais en mettant face à ses responsabilités. C'est-à-dire, un, je vais voter, et puis deux, ceux qui ont été élus, ils appliquent, le programme sur lequel ils ont été élus, et puis ils font face.
Voilà. Donc c'est cette notion de responsabilité qui transparaît pendant tout l'ouvrage. Alors j'engage nos auditeurs à aller consulter les 20 propositions très pratique, qui montre qu'effectivement, il y a de la réflexion qui est venue dans cet échange du groupe. Et je n'ai plus qu'à remercier Pierre Tabarin pour cette note d'optimisme. Oui.
Si vous me permettez juste un dernier petit mot pour revenir sur ce qu'on vient d'évoquer, sur le temps dont vous parliez tout à l'heure, dans la mesure où parmi les propositions du groupe, il y a la création d'une assemblée du temps long. C'est-à-dire, à côté de ceux qui sont chargés au quotidien de gérer, etc., des indicateurs d'objectifs de moyen terme votés par référendum, c'est-à-dire à 3-5 ans, voilà ce qu'on veut faire, ou 2030-2050, nos indicateurs écologiques. Et puis, d'un autre côté, cette assemblée du temps long, en quelque sorte un conseil économique et social environnemental modifié, dont la mission, ce serait de surveiller qu'on respecte bien et qu'on atteint bien les objectifs du temps long.
Écoutez, réflexion bien à propos, puisque là, nous sommes plutôt dans un temps court. Pierre Tabarin, merci beaucoup. Je rappelle que votre ouvrage, Le Citoyocène, un nouveau futur, est paru aux éditions Nombre 7. Au revoir à tous.